Voilà, on est donc, bonjour à tous, on est dans l'étude de l'évangile de Luc. La semaine dernière, Colin nous avait emmené dans le chapitre 9. C'était un gros morceau, on a vu vraiment l'identité de Jésus, que Jésus était le roi, mais un roi humble qui est venu servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc nous allons continuer cette étude aujourd'hui. On a un passage assez long. Aujourd'hui, puisqu'on va couvrir trois chapitres, chapitre 9 à chapitre 11, avec des choses très importantes dedans. Donc plutôt que me focaliser sur un truc au hasard, j'ai voulu traiter l'ensemble du chapitre, et vous verrez que ce chapitre a une cohérence par rapport à l'étude de Luc. Mais avant de continuer, je voudrais qu'on prie. Seigneur notre Dieu, merci encore du privilège que nous avons d'ouvrir ta parole, d'être libre, de pouvoir en parler, de pouvoir posséder une Bible sans être persécuté, sans être emprisonné. Seigneur, que cette parole, nous puissions la serrer dans notre cœur, qu'elle puisse nous éclairer et conduire notre chemin. Seigneur, fais que aucun d'entre nous ne l'abandonne. Et Seigneur, je te demande ta grâce et ta force ce matin pour la méditer et l'annoncer. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, j'ai vraiment besoin de ta grâce ce matin pour parler de ta part. Amen. Avant d'aller plus loin, en ce début d'année, on a été frappé par des départs. On a accompagné Mathieu la semaine dernière. Et cette semaine, à Grenoble, nous avons accompagné un très cher frère qui s'appelle William Scott McCarthy, un Américain. Un Américain qui est venu en France servir le Seigneur depuis 1970 et qui est parti donc cette semaine. Il avait un cancer généralisé. Et c'est quelqu'un, vraiment un homme de Dieu qui a aimé le Seigneur, qui avait un caractère très particulier. Il a servi à Grenoble dans l'église de la rue Germain. Si vous connaissez, c'est une église KF, sœur de l'église de la rue Casimir-Perrier qu'on connaît bien. Et Scott McCarthy a été notamment le cofondateur du CISFEM avec Marcel Tabayou. C'est un centre d'enseignement à Grenoble. Et pourquoi je vous en parle? Parce que Scott a été un de mes mentors. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté par son exemple. Quand j'étais jeune prédicateur, où je bafouillais, où je ne savais pas parler, il s'asseyait au fond de la salle avec son regard perçant, il prenait des notes. Et puis, à la fin du culte, je m'en prenais plein mon grade. C'était pas la méthode coach avec les choses positives, blablabla. Ça descendait direct. Mais je reconnais qu'avec les années, ça m'a fait énormément de bien. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est un peu grâce à lui. J'ai pas eu beaucoup de mentors dans ma vie. J'ai perdu Marcel PCA l'année dernière. Enfin, nous avons perdu, mais pour moi, il était quelqu'un aussi de particulier. Voilà, je voulais rendre hommage à Scott et un peu cette prédication. Je la lui dédie. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je ne sais pas s'il me voit là-bas au ciel, mais voilà. Scott McCarthy. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, Mulholland Drive. C'est un film de 2001 qui est classé dans le genre thriller psychologique. Certains le qualifient même comme torture de l'esprit, tant certains passages sont difficiles à interpréter. L'histoire, c'est l'histoire d'une femme, Laura Harring. C'est l'actrice qui survit à un accident de voiture et qui oublie un petit peu qui elle est. Elle va rencontrer un autre personnage, Betty, qui va tenter de l'aider à découvrir qui elle est. Elle est en perte d'identité. Pourquoi je vous parle de ce film? Parce que c'est un très beau film qui va passer lundi d'ailleurs. Alors, je fais un petit coup de pub, mais j'ai pas d'action. Je sais plus, c'est Arte ou je sais pas, regardez dans votre programme. Je regarde pas très souvent la télé, mais parfois ça vaut le coup, c'est intéressant. Pourquoi je vous parle de ce film? Parce que dans l'étude de l'évangile de Luc, pour bien comprendre l'intention de Luc et le message aujourd'hui, il va falloir qu'on aiguise un peu notre esprit. Donc je vous encourage, puis je vais vous accompagner de manière didactique. Parce que nous aussi, on est un peu comme cette actrice, enfin comme ce personnage du film. On a eu un accident, et puis on a perdu notre identité. On avait une identité auprès de Dieu, dans le jardin d'Éden, tout était parfait, on était en relation avec Dieu, et le péché est venu tout briser. Il est venu casser notre identité, qui a été abîmée par le péché. Et dans ce passage qu'on va voir aujourd'hui, On va voir comment, d'une certaine manière, Luc, dans sa rédaction, et Jésus, bien entendu, dans ce qu'il fait, eh bien, comment Jésus va aider à restaurer cette identité. Alors, je vais faire un petit rappel de la dernière fois, du chapitre 9. Je ne vais pas faire un grand rappel, parce que Colin avait bien rappelé ça, mais en gros, pour vous dire que dans Luc, il y a deux grandes parties. Et Luc, Colin l'avait dit la dernière fois, Luc 9, 51, c'est un verset charnière qui sépare les deux parties. La première partie de Luc, c'est la venue de Jésus, en gros. Et la deuxième partie de Luc, c'est le départ de Jésus. Facile à retenir. Jésus, il vient et Jésus s'en va. D'accord ? Et donc, comme Jésus s'en va, il va laisser des disciples pour continuer le travail. Seulement, les disciples, il va falloir les former. Alors, je vous ai préparé un petit schéma. Tout ça pour vous dire que, oui, j'ai oublié de vous dire que le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'identité. L'identité du disciple. Alors, je crois qu'il y a des ados qui prennent des notes aujourd'hui. Donc, le thème d'aujourd'hui, ça va être l'identité du disciple. On a vu l'identité de Jésus. Alors, voilà le plan qu'on va suivre, très rapidement. Il y aura un petit rappel, on va voir le contexte. Je vais essayer de vous situer le passage aujourd'hui dans un contexte général, avec un éclairage un peu différent de la dernière fois, de ce qu'avait dit Colin, parce que je vais prendre un peu plus de hauteur pour vous aider à comprendre l'intention vraiment de Luc. Ensuite, on va voir quel est le contenu du passage. On verra qu'il y a plein d'événements clés, le bon samaritain, qui mériterait à eux seuls une étude complète. On va voir quel est l'enjeu finalement de ce passage, et je vous l'ai donné déjà, c'est l'identité. On va voir les quatre axes qui sont traités par Luc, et puis on verra quelques applications. Voilà ce que le plan qu'on va suivre aujourd'hui. Alors, si je fais un rappel, le contexte, on a 66 versets à étudier aujourd'hui. Alors, on ne va pas faire la lecture, malheureusement, parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, je vous demande de prendre vos Bibles, et puis d'ouvrir vos Bibles au chapitre 9, de l'évangile de Luc. On fera des lectures ponctuelles. Normalement, Guy avait eu l'amabilité dans sa newsletter de vous demander de lire ce passage. Et donc, on s'y référera. Alors, c'est parfois utile, quand on étudie un chapitre comme ça, d'avoir une Bible papier. Je me suis aperçu lors de l'étude de vendredi dernier que lorsqu'on a des Bibles électroniques, ça affiche une page à la fois, on passe d'une page à l'autre. Parfois, une Bible papier, c'est bien, parce qu'on tourne les pages, c'est souligné, c'est colorié. Donc, voilà. J'ai rien contre les Bibles électroniques, c'est très utile, mais parfois, une Bible papier, ça peut quand même nous aider. Alors, très rapidement, comment s'articule l'évangile de Luc ? Alors, dans le chapitre 9, il y avait 5 thèmes. On a vu que le chapitre 9 qui traite de l'identité du Messie, Jésus, le roi, qui vient annoncer son royaume, un roi humble et serviteur, eh bien, il va annoncer ce royaume en six tableaux, en quelque sorte. 6 tableaux qui sont organisés en chiasme. On verra plus loin, je vous expliquerai tout ça. Mais donc, dans l'évangile de Luc, Jésus, crescendo, il va être présenté comme un roi. Il va y avoir, à partir de l'incarnation, c'est la venue de Jésus, première partie, eh bien, Jésus, crescendo, par différents événements, il va arriver à être présenté comme un roi. Et son identité est définie comme un roi qui est humble, prêt à se sacrifier et qui vient annoncer son royaume. Alors il va y avoir un certain nombre d'étapes, et notamment cette étape clé, c'est lorsqu'il est dans la synagogue de Nazareth, il va prendre, parce que c'est le jour du sabbat, il prend le rouleau, enfin l'occasion qu'on lui donne de présenter de faire la lecture, et il va trouver le livre d'Ésaïe au chapitre 61, et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, renvoyer libres les éprouvés, ouvrir les yeux des aveugles, etc. » Il y a 6 éléments qui sont cités, là. C'est la venue de Jésus, et ces éléments-là, il va les illustrer. Quand il faut rendre la vue aux aveugles, il rend la vue aux aveugles. Il chasse les démons, il guérit les opprimés, etc. Donc il libère, il montre par ses actes qu'il est vraiment le roi. Mais il omet de citer un élément qui est le dernier, le 7e, un jour de vengeance de notre Dieu. Pourquoi ? Parce que ce roi qui vient, on verra qu'il vient pour une raison bien précise, mais il reviendra pour exercer le 7e élément. On fait un peu d'eschatologie en même temps. Un jour, il reviendra pour exercer la vengeance comme roi sur vraiment l'univers. Et donc, il y a différentes étapes qu'on a vues la dernière fois au chapitre 9, et 2 étapes qui sont très très liées, qui sont la confession de Pierre et la transfiguration. Ces deux éléments sont liés en même temps, et on verra aussi que Luc lit de manière très spéciale ces deux éléments-là, la multiplication des pains. Parce que c'est un élément identitaire, Jésus apparaît comme le pain de vie, hein, et ces deux éléments sont juxtaposés dans Luc, c'est unique. Luc va omettre tout un tas de choses, il va raconter la première multiplication des pains, et tout de suite après vient la confession de Pierre et la transfiguration. Tout ça contribue à annoncer sa qualité de roi. D'accord ? Et donc là, il va parler du royaume de Dieu. Hein. Il va parler du royaume de Dieu, et c'est un royaume très spécial, parce qu'on verra que les disciples, ils attendaient le Messie pour chasser les Romains, pour installer le royaume sur terre. Hein. Et d'ailleurs, regardez au verset 43, chacun est dans l'admiration, et chacun est en train de se dire, mais Jésus, ça y est, c'est lui le Messie, ça fait 600 ans presque qu'on est prisonnier des autres, et là on a quelqu'un qui vient nous délivrer, qui va chasser l'occupant, on va enfin revenir sur notre terre, on va enfin être libre. Donc les gens à l'époque, au moment précis où Luc écrit ça, les gens pensent que le royaume va s'installer et ils ont une fausse idée de l'identité du Messie. Retenez ça, parce que quand on a une fausse idée de qui est Jésus, eh bien on va développer une fausse identité de chrétien. L'enjeu, il est vraiment important. Et Jésus, là, va prendre tout le monde à contre-pied. Il va leur dire, vous vous trompez complètement, parce que le Fils de l'homme va être livré. C'est-à-dire que Jésus est le roi d'un royaume qui est à la fois ici. Hein. Jésus dira, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pourquoi ? Parce que moi, je suis au milieu de vous, je suis le roi, et je représente ce royaume. Et en même temps, c'est un royaume qui est encore à venir, parce qu'il n'est pas complètement révélé. D'ailleurs, il dira à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Hein, c'est dans l'évangile de Jean, il y a ce fameux échange avec Pilate au chapitre 18 où il va vraiment dire ça, quoi. Le royaume, il est là, mais il n'est pas là encore. Il est à venir. Pourquoi ? Parce que la deuxième partie, parce que Jésus, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est venu annoncer un Messie qui est roi, un Messie qui est glorieux, mais humble, est un Messie qui est souffrant. C'est le Messie qui avait été annoncé dans Isaïe 53. Et d'ailleurs, quand on a retrouvé les fameux manuscrits de la Mer Morte, hein, les rouleaux de Qumran, hein, qui ont été rédigés par les Esséniens, qui étaient une espèce de secte qui était un petit peu à part, les Esséniens, ils avaient une vision très claire du Messie souffrant. Ils savaient que le Messie allait être souffrant. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer, mais ils avaient cette notion de Messie souffrant. Donc cette première partie, cette première venue de Jésus, c'est un Jésus souffrant, c'est pas un Jésus glorieux qui vient. Et d'ailleurs, la deuxième partie qui est le départ de Jésus, c'est une partie qui ne va pas monter crescendo, mais c'est une partie qui va descendre. Et le verset clé qu'on avait vu, eh bien c'est ça. Lorsque le temps approcha, eh bien Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. C'est une action positive de sa part. C'est actif, et cette incarnation qui a vu la révélation du Fils de Dieu, tu pourras prendre la photo plus tard si tu veux, parce qu'il y aura tout l'ensemble. Hein. Et puis je vous enverrai le PowerPoint si vous voulez. Voilà. Donc ce Messie souffrant, il va descendre, hein, ça va être la crucifixion, qui sera suivie de la résurrection, qui sera suivie ensuite de l'ascension. L'ascension, Jésus monte au ciel, il a été glorifié par le Père, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous en ce moment. Et un jour, ce Jésus, eh bien, il reviendra en gloire. Ça, c'est sa deuxième venue. D'accord ? Il reviendra en gloire. Et là, ça sera un jour de vengeance. Hein. Entre-temps, donc, l'ascension, lorsque Jésus reviendra, il va enlever son Église. J'en profite pour rappeler que les CAEF, la doctrine, on va dire, traditionnelle des CAEF, c'est la doctrine dite préminénariste. D'accord ? Ou dispensationaliste, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y aura un vrai millénium. Hein, il y a beaucoup, aujourd'hui, dans le milieu évangélique, il y a énormément de gens qui sont amillénaristes. Il n'y a pas de millénium, le millénium a déjà commencé. Nous, on est prémillénaristes, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être que les anciens, vous allez me contredire, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, la position des KF a toujours été comme ça. C'est prémillénariste. Jésus va revenir, il va enlever son Église. On montera aux cieux à la rencontre de Jésus. Il y aura les noces de l'agneau. On va célébrer les noces de l'agneau. Et puis ensuite, Jésus reviendra régner sur terre dans un règne de 1000 ans, où il exercera la vengeance, il pètera les nations avec une verge de fer. Voilà. Donc, voilà le tableau d'aujourd'hui, où se situe l'évangile de Luc, et particulièrement ce passage de l'évangile de Luc. Alors, comme on a dit, Jésus, c'est le roi d'un royaume qui est encore à venir. Et le message de Jésus au chapitre 9 sur le royaume est radical. C'est un royaume qui n'est pas encore présent. Et puis, ce roi qui vient annoncer ce royaume à venir, il n'est pas reçu. Il est rejeté. Alors qu'en tant que roi, il aurait pu s'attendre à être accueilli. Alors il est accueilli d'une certaine manière, vous voyez le verset 43 qui est en haut, les gens s'étonnent, ils s'émerveillent, mais Jésus n'est pas reçu, c'est ce que Jean écrit dans son prologue. Hein. Il dit, la lumière, donc Jésus, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas accueilli. Alors que lui, en tant que roi, il aurait pu s'attendre à être reçu. Et bien accueilli. Hein, c'est la parabole des vignerons qu'il va donner plus tard. Hein, vous savez, ces vignerons qui, à un moment donné, disent « Voici l'héritier, tuons-le, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. » Donc, il y a un rejet massif. Hein, le royaume que Jésus vient annoncer est massivement rejeté. Pourtant, les gens se sont dit « Il y a quelque chose qui se passe. » Au chapitre 7 et au verset 16, hein, lorsque Jésus, vous pouvez regarder pour ceux qui prennent des notes ou qui ont leur Bible, après la résurrection du fils de la veuve de Naïn, les gens disent « un grand prophète s'est levé ». Donc, progression dans l'identité. Tiens, oui, Jésus est un grand prophète. Et puis, au verset 7 du chapitre 9, il y a cette fameuse question « qui suis-je ?» Et certains disent « c'est Jean-Baptiste », d'autres qui disent « c'est Élie ». Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Jésus, il a une stature de plus en plus particulière. On se dit, quelqu'un du royaume de l'au-delà est venu visiter notre royaume. Donc, progressivement, il y a un changement radical de la perception de qui est Jésus. Et Jésus, lui, vient annoncer un royaume qui n'est pas terrestre. Hein, d'ailleurs, il va le quitter, verset 51. Il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem, parce qu'il sait que c'est là qu'il quittera ce royaume. Mais un jour, il reviendra chercher les siens, il reviendra nous chercher, tous ceux qui lui appartiennent ici, pour les extraire d'un royaume terrestre qui est usurpé. Parce que le royaume terrestre actuel, il est usurpé par Satan, qui l'a usurpé en trompant Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et ce royaume usurpé, c'est un royaume où règnent des démons, puisque Jésus est obligé de chasser des démons, c'est un royaume où règne la maladie, c'est un royaume où règne le péché, c'est un royaume où règne le manque, hein, alors que le royaume de Dieu est un royaume d'abondance. Hein, le royaume de Dieu est souvent comparé à un festin avec une abondance. Jésus le démontre, hein, premier miracle à Cana, il multiplie, il change l'eau en vin, il n'y en a pas un litre, il n'y a pas un magnum, ni un Jéroboam, il y en a 600 litres. Donc, Jésus est caractérisé par l'abondance. Mais ce royaume ici-bas, c'est pas un royaume d'abondance. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a un courant dans le milieu évangélique qui s'appelle l'évangile de la prospérité, hein, qui dit que Jésus est venu annoncer l'abondance, donc vous devez avoir l'abondance. Si vous êtes pauvre, c'est que vous n'avez rien compris à l'évangile, il faut mieux comprendre l'évangile parce que vous devriez être riche. Hein. Et alors ça, il y en a plein, l'évangile de la prospérité, il y a même des livres qui sortent là-dessus, il y a des gens qui sortent de cette doctrine et qui écrivent des livres, donc c'est intéressant. Mais tout ça, c'est au chapitre 9, Jésus annonce le royaume, il parle du royaume et il dit que le royaume, c'est un royaume usurpé, et dans ce royaume usurpé, eh bien c'est un royaume limité, où les disciples sont limités. D'ailleurs, on a vu au chapitre 9 qu'à un moment donné, ils n'ont pas pu chasser le démon. On a vu aussi qu'ils n'ont pas pu multiplier les pains. Jésus leur a dit « Donnez-leur vous-même à manger » et ils n'ont pas pu multiplier les pains. Donc c'est un royaume où on est limité, ce royaume terrestre, eh bien ça préfigure un royaume à venir, mais pour passer du royaume terrestre qui est limité, qui est usurpé, eh bien il faudra une véritable transformation. Il faut une véritable transformation et Jésus va en donner un avant-goût sur la montagne de transfiguration parce qu'il va apparaître comme transformé. Hein. Quand il est dit « ses vêtements sont devenus blancs comme la neige », hein, le terme qui est utilisé, c'est métamorphose. Hein, la métamorphose, c'est une transformation, c'est pas juste un changement cosmétique, une petite retouche. Quand on passe d'une larve à un papillon, une larve, ça ne ressemble pas à un papillon. C'est une vraie métamorphose. Donc Jésus en donne sur la montagne de transfiguration un avant-goût, mais ce n'est pas encore pour maintenant. Et donc, pourquoi il montre ça en tant qu'avant-goût? Parce que dans la deuxième partie du départ de Jésus, on a vu que la première partie, il va révéler son identité, qui il est. Dans la deuxième partie, eh bien, il va révéler l'identité du disciple, ce fameux disciple qui va prendre la suite lorsque Jésus sera parti. Eh bien, il va lui falloir une transformation. Et c'est ce que Jésus va s'attacher à démontrer. Quelles sont les caractéristiques du disciple qui doit être transformé pour réellement devenir un disciple? Aujourd'hui, on parle de chrétien. D'accord? Je suis chrétien, je suis membre, etc. Jésus, il n'a pas formé des chrétiens, il a formé des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est transformé. Hein, la première étape de la transformation, c'est ce que Jésus va expliquer à Nicodème, c'est il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que ton cœur, qui est sale du péché, soit transformé par une action miraculeuse du Saint-Esprit. Lorsque tu dis oui à Jésus, lorsque tu viens à genoux devant lui, que tu lui demandes pardon pour tes péchés, eh bien Jésus te donne un nouveau cœur, il te donne son Saint-Esprit. Donc comprenons bien cette chose. Le royaume qu'annonce Jésus, c'est un royaume à venir. On ne doit pas, nous, sur terre, annoncer un royaume d'abondance. Très souvent, j'entends dans l'évangélisation, dans la rue, « Ah, ben viens à Jésus, il va résoudre tous tes problèmes, ça sera terminé. » Ça, c'est tromper les gens. Parce que ce royaume, c'est un royaume de souffrance. Et après la confession de Pierre, une fois que, clac, le disciple est révélé, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les disciples sont dit, ça y est, c'est parti, maintenant on va prendre le pouvoir, c'est terminé les Romains. Eh bien, détrompez-vous, dit Jésus, mon royaume va être introduit par la souffrance. Et ne méprisez pas, ne vous méprisez pas sur l'identité du disciple. Le disciple, il ne peut pas être différent que son maître. Donc ce royaume à venir que Jésus annonce au chapitre 9, il a un coût qui s'appelle la souffrance et le rejet. Et c'est pour ça que Jésus les encourage sur la montagne de transfiguration. Alors, il n'encourage pas tout le monde, il en prend trois avec lui, mais le bouche à oreille a marché. La transfiguration montre que bientôt, il y aura un royaume à venir. Et ce chapitre de la transfiguration, je pense, a aidé des millions de chrétiens au travers des siècles pour tenir le coup dans la persécution et la difficulté. Et imaginons nos frères et sœurs qui sont en Corée du Nord, qui sont dans les pays musulmans, qui aujourd'hui souffrent, qui sont persécutés, qui sont tués pour leur foi. Eh bien, lorsqu'ils lisent 2 Pierre 1, et on va prendre ce texte, 2 Pierre 1, parce que l'apôtre Pierre, il y était, c'est l'un des trois happy few, qui était sur la montagne de la Transfiguration, 2 Pierre 1, au verset 16, on va lire les caractéristiques de ce royaume. Ce n'est pas, en effet, suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc Pierre rapporte dans sa deuxième épître, qui est écrite à des chrétiens persécutés qui souffrent pour leur foi, qui ne sont pas du tout dans l'évangile de la prospérité, il leur dit, nous on était sur la montagne, on a vu ce royaume à venir que Jésus nous a annoncé. Pour l'instant, il n'est pas là, mais prenez patience parce que bientôt, il va venir. Et c'est aussi un message pour chacun de nous. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, peut-être tu souffres dans ta situation parce que tu mènes un deuil, parce que tu mènes le rejet, parce que c'est difficile pour toi. Eh bien, sache qu'il y a un royaume à venir. Et Jésus l'a annoncé, mais il a annoncé le vrai royaume à venir. Il n'a pas annoncé un royaume de prospérité. Donc, le Messie glorieux. Bon, ça, je vais passer rapidement. Ça, c'était juste le chapitre 9, les six récits, comment ils étaient regroupés par paires. En fait, le but, c'est de comprendre que le Messie, Hein, Luc nous présente le Messie tel qu'il est et il le présente pourquoi il est venu. Alors, l'enjeu de ces deux parties de Luc, c'est très clair. Le premier enjeu, c'est comprendre l'identité du Messie. Et le deuxième enjeu de la deuxième partie, c'est de comprendre l'identité du disciple. Et les deux, en fait, sont liés. Parce que je ne peux pas comprendre l'identité du Messie. Je ne peux pas comprendre mon identité de disciple et de chrétien. Je ne peux pas mettre une définition de ce que je suis en tant que disciple si je ne comprends pas l'identité de Jésus. Hein, c'est ce que Paul écrira aux Corinthiens. Hein, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, encore métamorphose, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous amène à la ressemblance de Christ. Et donc c'est ça qu'on va voir à partir de maintenant, c'est l'identité du disciple. On va commencer dans ces passages, et là tu peux faire la photo, parce que la diapo est complète. Voilà, si vous, ceux qui écoutent le message en audio, si vous n'avez pas les diapos, hein, je vous les enverrai, vous me les demanderez. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux versets, ces 66 versets, hein, donc ce verset charnière, bien entendu, hein, lorsque le moment s'approcha où Jésus devait être enlevé au ciel, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem, etc., pour mourir. Alors, on a déjà, dans un premier temps, le village samaritain, hein, qui refuse de recevoir Jésus. Ça, c'est un prélude du futur rejet de Jésus. Et d'ailleurs, les disciples, ils n'acceptent pas. Hein. Quand Jésus dit à Pierre qu'il doit mourir, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est dans Matthieu. Il lui dit, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Hein. Et Jésus doit le reprendre. Donc les disciples, on voit qu'ils n'acceptent pas. Parce que les disciples, ils ont parfois le même problème que nous, on peut avoir ici. C'est-à-dire que ils ne voient pas la vraie identité de Jésus. Quand Jésus leur dit, je vais partir, je vais vous laisser, je dois mourir, ils disent, non, surtout pas. Alors vous voyez, là, ils sont rejetés à Samarie. Les disciples n'acceptent pas, parce que leur cœur traduit un manque d'amour. On le verra tout à l'heure. Et puis, après, il y a la rencontre avec les trois pseudo-disciples. On y reviendra aussi. Hein. Et ça nous montre qu'est-ce que n'est pas un disciple. Puis, ensuite, Jésus va envoyer les 70 en mission. Et ben ça, c'est aussi, on le verra, hein, je vais détailler tout ça dans quelques instants, c'est un peu la mission du disciple. On verra que le disciple est un ambassadeur qui est envoyé par Jésus. Et puis, Jésus va parler des conséquences du refus de croire. Il va condamner un certain nombre de villes qui refusent de croire. Parce que c'est la réalité aussi. Quand on annonce l'évangile, soit on est reçu positivement, soit il y a des gens qui refusent de croire. Quand les gens refusent de croire, il faut leur dire, si vous ne croyez pas aujourd'hui, ben, c'est la perdition. C'est la perdition, enfin, il n'y a pas d'autre mot. Malheureusement, il y a des gens qui refusent de croire. On a, nous, notre famille qui refuse de croire, c'est la perdition. On leur dit, bon, ils s'en moquent parce que de toute façon, voilà, c'est pas pour maintenant, c'est les autres, etc. Et puis ensuite, donc la joie du disciple, hein, Jésus qui tressaillit de joie malgré le rejet, on verra que la joie, ce n'est pas une émotion, la joie, c'est une œuvre du Saint-Esprit en nous qui peut nous rendre joyeux malgré les circonstances. La joie ne dépend pas des circonstances. Et puis ensuite, il y aura le fameux épisode du bon samaritain, qui est mon prochain, comment recevoir la vie éternelle. Alors Jésus est en train de parler du royaume, la manière avec laquelle on va accéder au royaume. Et puis là, il y a un pharisien qui n'a rien compris, qui dit, qu'est-ce que je dois faire, hein? Voilà, ça, Paul reviendra là-dessus, les œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit. Mais on n'accède pas au royaume en faisant des trucs. J'accède pas au royaume parce que je m'appelle chrétien, parce que j'ai ma carte de l'église, parce que je viens au culte, parce que je fais le culte en commun tous les ans fidèlement. Non, je ne deviens pas chrétien comme ça. Je deviens chrétien parce que je demande pardon un jour à Jésus et j'abandonne mes filets. Hein, comme le dit l'exhortation ce matin, pour ceux qui lisent les calendriers, très belle exhortation de Jean-Michel Guerche. Hein, j'abandonne mes filets pour le suivre et je m'arrête au pied de Jésus. Et puis la posture du disciple, c'est Marthe et Marie, d'accord ? Est-ce qu'on est un disciple affairé ou un disciple écoutant ? Et ensuite, le passage se termine sur comment prier. Alors tout ça, on ne va pas le détailler. Hein. D'ailleurs, comment prier, c'est le Notre Père, on l'a déjà vu dans l'étude de Matthieu. Mais vous voyez, on a tout ça au menu. Alors tout ça, ça peut paraître compliqué, mais si on le replace dans le contexte général de Jésus est en train de partir, est en train de former ses disciples, il est en train de construire en eux l'identité de ce qu'est un disciple, calqué sur l'identité de ce qu'est le Messie. Voilà, j'ai été un peu long pour revenir sur l'identité de Jésus, mais les deux sont liés. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Donc il y a un enjeu majeur. Il y a un enjeu majeur dans cette affaire, c'est celui-là. Si je n'ai pas compris l'identité de ce qui est le Messie, comme les disciples d'ailleurs, eh bien, je ne peux pas devenir un bon disciple, je ne peux pas endosser la vraie identité du disciple. Donc Jésus, il n'est pas venu annoncer l'abondance, mais il est venu annoncer la souffrance. D'accord ? Et l'apôtre Pierre, il reviendra, l'abondance est à venir. Hein, dans l'Apocalypse, il nous est dit qu'il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, plus de souffrance, parce que ce qui autrefois était aura disparu. Voilà. Donc, l'enjeu de ce chapitre 9, c'est comment on transforme une personne née de nouveau. Ça, c'est les fondamentaux de la foi. J'espère que vous vous êtes inscrits nombreux à l'étude d'Éric ce soir. Les fondamentaux de la foi, c'est comment on prend un disciple initial, par exemple, qui vient de se convertir, qui vient d'arriver à Jésus, et comment on en fait un disciple à la ressemblance de Christ. Alors, je vous rassure, on ne verra pas tout ça aujourd'hui, parce que il y a un gros programme. Mais en gros, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'étapes. Et aujourd'hui, dans le passage qui nous concerne, on a quatre étapes. Quatre étapes pour nous donner un aspect de l'identité du disciple. Mais avant de voir ces quatre étapes, il faut essayer de comprendre d'où on part. D'où part le disciple? D'où partent les disciples de Jésus? Parce qu'en fait, Jésus, on voit au chapitre 9 qu'il a eu le cœur un peu brisé. Quand ses disciples lui annoncent qu'ils n'ont pas pu chasser le démon, il leur dit au verset 41, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand je serai avec vous et jusqu'à quand vous supporterai-je » C'est difficile ça de la part d'un maître, d'écouter quelque chose de dur. Je vous parlais de Scott tout à l'heure, parfois il me disait « Mais là, tu t'es gamellé, quoi, t'es passé à côté de ton sujet, etc. » Alors c'est dur à entendre, vous avez bossé des heures, t'es passé à côté de ton sujet. Bon. Mais au moins, ça fait réfléchir. Maintenant, je fais très attention sur le cœur du sujet. J'essaye de ne pas rater le sujet le thème. Parce qu'on peut très vite rater on peut partir sur des tas de pistes. Alors, Jésus, à ce stade-là, du chapitre, quand il prend la résolution d'aller à Jérusalem, il se dit, oulalalala, il faut que j'aille à Jérusalem. Alors, j'ai une bande de branquignoles avec moi qui comprennent rien. Ils pensent que je vais chasser les Romains, mais c'est pas du tout ça. Et Jésus, dans son amour et sa patience, il va les former. Alors, quel est le problème des disciples? Le premier problème, c'est qu'ils ne sont pas en capacité. Ils n'ont pas de capacité, on a vu, ils n'ont pas pu multiplier les pains, ils n'ont pas pu guérir le démoniaque. C'est ce qui a fait dire ce texte que j'ai lu tout à l'heure. Race incrédule et perverse. D'accord? Ils n'ont pas la capacité. Et ça, en tant que disciple, ça doit nous interpeller parce que moi, en tant que disciple, je n'ai pas de capacité. J'ai été appelé, je n'ai pas de capacité. Ma capacité vient de Dieu. Le jour, c'est ce que dit Paul, hein, je reprends le passage de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 1, il dit « Ma capacité vient de Dieu ». Qui est compétent? Qui est suffisant pour cela? Paul interroge et il répond un chapitre plus tard, « Personne. Ma capacité vient de Dieu ». Donc tout ce qu'on a, eh bien ça vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, disait Paul. Et on voit que les disciples, ils partent d'un constat d'incapacité. Ils ne savent pas faire. Heureusement, parce que Pierre, quand il a commencé à dire « je sais faire », il va dire à Jésus « non, moi je ne t'abandonnerai jamais ». Voilà. Là, c'est quelqu'un d'autosuffisant. Il se dit « j'ai les capacités ». Et on a vu ce que ça a donné. Donc, le vrai disciple, il n'est pas capable. Il doit compter sur Dieu. Jésus dira en Jean 15 « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Pas rien faire sans lui. C'est lui qui donne tous les dons. Il distribue les dons comme il le veut par son Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la capacité. Alors, est-ce à dire que je ne dois rien faire? Non. Mais la capacité vient de Dieu. Deuxième constat, les disciples manquent d'amour. Ils manquent d'amour. Jésus leur dit, je vais partir, je vais être livré, je suis le roi humble qui va donner sa vie. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent qui est le plus grand. Pourquoi ils discutent? Parce que Les 9 disciples qui ont vu leur copain aller sur la montagne. Ah, mais pourquoi c'est eux et pourquoi c'est pas moi? Hein? Le Philippe, le Nathanaël, le Judas, etc. Ils discutent qui est le plus grand. Et puis, quand ils sont reçus chez les Samaritains, Jacques et Jean disent « Ah, on n'a qu'à envoyer le feu du ciel. Peu importe, hein, on va tous les massacrer. » Ça, c'est au verset 54. Et puis, quelqu'un, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom et nous lui avons dit de ne pas le faire. » Ben, évidemment, il n'est pas de notre bande. Allez, notre église, eh bien, l'église sonnera, mais les autres, elles ne valent pas un pet. Donc, ils valent rien. Nous, on est bien, mais eux, non. Vous voyez, vraiment un manque d'amour. Mais est-ce que ça ne nous concerne pas? Est-ce que moi, ça ne me concerne pas? Ça, c'est le constat du disciple initial. Et puis, manque de discipline, manque de discernement. Il y a ces fameux trois disciples. Hein. Maître, je te suivrai partout où tu iras. L'idéaliste. D'accord ? Il ne se rend pas compte. C'est exactement Pierre qui dit « Seigneur, jamais je t'abandonnerai. Maître, je te suivrai partout où tu iras. Pas de problème, tu me confies cette tâche. Tu me demandes de prêcher. Oui, facile. Tu me demandes de présenter un culte, d'introduire. Oui, facile. Tu me demandes d'animer. Facile. Mais non, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'idéaliste. Puis le deuxième arrive. « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Ça, c'est le conditionnaliste. « Ok, Seigneur, je veux bien te suivre, mais d'abord mes conditions. Je vais d'abord enterrer mon père. » Ça, c'est Jacob à Bethel. Hein. « Seigneur, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, j'aurai la grâce de t'accorder un peu de mon temps. » Ça, c'est se moquer de Dieu. Je ne suis pas à ma place. Ça, c'est le conditionnaliste. Et puis le troisième, c'est le sentimentaliste. « Ah, oh, je te suivrai, mais tu sais, j'ai le cœur brisé. Il faut que je regarde en arrière. » Ça, c'est la femme de Lot. « Permets-moi d'abord d'aller prendre soin, faire mes adieux à ma famille. » Alors, il n'y a rien de mal en cela. Mais on voit que le cœur de ces trois disciples, que j'ai appelés des pseudo-disciples, eh bien, il n'est pas droit. Il n'est pas engagé, il n'est pas entier. Et c'est pour ça que Jésus, au début du chapitre 10, va dire « Mais la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Pourquoi ?» Parce que pour être un disciple vraiment engagé, ben vous voyez d'où on part. L'incapacité, manque d'amour, manque de discipline, moi je m'y retenais dedans. J'ai 30 et quelques années de vie chrétienne et je peux mettre mon nom là-dedans. Vous voyez, le travail de transformation à l'image de Jésus, il est encore long chez moi. C'est un constat vraiment difficile, hein, et Paul écrira aux Galates ce fameux chapitre 5, « Les œuvres de la chair sont manifestes, les œuvres de l'homme non régénéré sont manifestes. » Donc on a besoin vraiment de ce Saint-Esprit pour que Dieu nous transforme en disciples à l'image de Christ. Et là, la bonne nouvelle, c'est ce que Paul écrira à Timothée, « Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit qui nous remplit de force, qui répond à notre incapacité, qui nous remplit d'amour, correspond à nos manques d'amour, et qui nous remplit de sagesse pour avoir le discernement. » Donc Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Comme par hasard, ça répond à cette demande. Qui est suffisant pour ces choses, disait Paul en 2 Corinthiens 2,16. Et en 2 Corinthiens 3,5, il répond « Notre capacité vient de Dieu ». N'oublions pas tout ça. Alors, quelles sont ces fameuses balises? Alors, la première des balises, eh bien, c'est que le chrétien, premier niveau d'identité, le chrétien est un ambassadeur en mission, en terre étrangère. Un ambassadeur, c'est quoi? Eh bien, il représente le Seigneur et il est envoyé devant lui. C'est ce que fait Jésus, il envoie les 70 disciples. Ces disciples sont capables de comprendre qu'en partant en mission, ils vont être rejetés. C'est les choses normales. Jésus donne des instructions. Si on vous rejette, secouez la poussière de vos pieds, vous allez ailleurs. Ça nous apprend aussi à ne pas trop insister. Par exemple, notre famille qui n'est pas au Seigneur, on leur a témoigné plusieurs fois, maintenant on ne témoigne plus, on témoigne par notre comportement. On ne va pas insister lourdement parce que ça ne rentre pas. Et on laisse faire Dieu parce que c'est le Saint-Esprit à un moment donné qui va convaincre de péché. Mais on est là en tant que missionnaire, on est toujours envoyé. D'ailleurs, c'est intéressant, pourquoi est-ce que le Seigneur envoie 70 personnes à votre avis? Parce qu'il a envoyé 12 disciples juste le chapitre d'avant. Et là, il en envoie 70. C'est quoi le symbole 70? À votre avis? Vous avez une idée? 12, bon, on comprend. 12, c'est quoi? 12 tribus? 12 fils d'Israël? Mais 70, c'est quoi? Là? Alors, oui, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais alors, 70, en fait, 70, quand on regarde Genèse chapitre 10, il y a 70 nations qui sont citées, qui constituent en fait le peuplement de la terre. Donc le premier envoi, c'est les disciples. Les 70, c'est vraiment le symbole, c'est l'évangile, c'est l'ordre de mission. Il envoie 70 disciples par rapport à 70 nations, donc c'est vraiment une mission universelle. Et quand on voit ces 70 qui sont envoyés, dans lequel on est, puisque c'est la terre entière, quand on voit ça, ben, l'ordre de mission il est à peu près identique. Hein? Il y a des recommandations, soyez prudents, comme des serpents, simples comme les colombes, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. D'accord? Donc le disciple, on a vu d'où il partait, on a vu que c'était un ambassadeur. Et puis le disciple, eh bien ça doit être un compatissant et un miséricordieux. Et là, bon, je ne reviens pas sur la parabole du bon samaritain, elle est très connue, il faudrait presque une prédication entière pour la décortiquer, mais en gros, Jésus est en train de montrer à ce docteur de la loi que ce n'est pas l'observation de commandements qui va permettre la transformation, c'est l'action du Saint-Esprit, c'est le cœur qui doit être changé. Et remarquez que ce n'est pas un juif qui secourt un samaritain, c'est un samaritain qui secourt un juif. Pourquoi ? Ben parce que les juifs, ils avaient tellement de préjugés, ils partaient tellement loin. Regardez ce que Jésus fait avec l'apôtre Pierre quand il lui demande d'aller prêcher chez Corneille. Il faut un espèce de miracle, cette toile qui descend des cieux trois fois, que Pierre réfléchisse et tout. Et encore, Pierre était brisé par son péché. Donc il va prendre l'exemple inverse, il va prendre un samaritain pour montrer en fait que la compassion, ben, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose d'universel et il nous encourage à être compatissants et miséricordieux. Alors jusqu'où je dois aller, jusqu'où je dois être compatissant? Ça, c'est la vraie question. D'ailleurs, il y a un prêtre sud-américain qui a écrit un livre qui s'appelle « Le burn-out du bon samaritain ». C'est-à-dire que, à force de m'oublier, de porter secours à tout le monde, j'en viens à faire des burn-out. Donc, il faut trouver un équilibre. Mais, en tous les cas, cette parabole du bon samaritain nous rappelle que ce n'est pas les gens religieux. Ils avaient plein de bonnes raisons, le lévite et le prêtre, ils avaient plein de bonnes raisons de ne pas s'arrêter. On a toujours plein de bonnes raisons de ne pas s'arrêter. Et là, il faut vraiment se laisser sonder. Moi, je reconnais que j'ai vraiment failli à plusieurs reprises où je devais porter secours et je ne l'ai pas fait. Et j'ai eu le cœur brisé derrière. Et à chaque fois, cette parabole me rappelle. Je n'ai pas le temps de vous raconter une autre fois où on l'a fait. C'était il y a bien longtemps, mais voilà. Donc, cette parabole du bon samaritain, elle est pour tout le monde. Elle nous rappelle que le disciple, c'est quelqu'un qui a un cœur compatissant et un cœur miséricordieux. Et puis, il y a cet épisode de Marthe et Marie. Bah, ça, j'aime beaucoup, Marthe et Marie. Il est très court, mais il est tellement parlant. Hein. Eh bien, c'est la stature d'adorateur. C'est celui qui utilise son temps avec sagesse, qui est assis au pied du chef du royaume céleste et qui n'est pas excessivement affairé par les soucis du royaume terrestre. Hein. C'est une question de royaume encore. Si je pense que le royaume est sur terre, je vais passer mon temps à essayer de construire le royaume sur terre. Je vais faire de l'humanitaire, je vais faire des tas de choses pour construire un royaume ici-bas et je vais perdre mon temps. Parce qu'on peut faire des œuvres pour Dieu tout en étant affairé et en oubliant complètement la relation. Donc je vous renvoie à ce feuillet du calendrier de Jean-Michel Guerche qui citait l'exemple du pharaon qui a eu une parole très très juste. Hein. Comment faire pour que les Israélites n'aillent pas adorer leur Dieu. Hein, Moïse vient voir le Pharaon, il lui dit « Permets à mon peuple d'aller faire 3 jours de marche pour adorer le Seigneur. » Et le Pharaon, voilà ce qu'il répond, il dit « Accablez ces Hébreux de travail pour qu'ils aient de quoi s'occuper et qu'ils ne prennent plus garde à ses faussetés. Aller adorer le Seigneur, Pharaon l'appelle fausseté, mais il est très, très astucieux. Et derrière Pharaon, c'est la main du diable, qui est très astucieux pour nous rendre affairés. On a toujours plein de choses à faire. On oublie de prendre du temps, de s'asseoir aux pieds du Seigneur pour vraiment passer du temps avec lui. Je suis content que tu nous aies parlé, Aurélien, de ce break qui t'a obligé à te replonger. Hein, tu as fait en quelque sorte comme Marie. Hein, tu as choisi la bonne part. Et même des activités religieuses peuvent nous emmener trop loin. Parce que le Seigneur est beaucoup plus préoccupé par qui nous sommes que par ce que nous faisons. Et vraisemblablement, quand on passera devant lui au ciel, le Seigneur nous dira, tu vois, là, tu as fait des trucs, tu n'en avais pas besoin. Donc posons-nous la question, c'est vraiment la gestion du temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, ce n'est pas la paresse, c'est comment j'équilibre ma vie pour passer du temps au pied du Seigneur. J'étais content la semaine dernière d'entendre qu'une sœur de l'Église fait le sabbat régulièrement. Elle arrête le dimanche, peu importe si c'est le dimanche, le samedi, le vendredi, mais d'arrêter et de se mettre au pied du Seigneur comme Marie, eh bien, c'est vraiment indispensable pour construire, encore une fois, cette identité de disciple, parce que Jésus le faisait. Même quand il était sollicité, Marc chapitre 3, tout le monde le cherchait, il était en train d'être au pied du Seigneur, de son Père, pour prendre les dernières instructions. Donc, trois niveaux d'identité, d'accord ? L'ambassadeur, le compatissant et l'adorateur. Et j'en viens au chapitre 11. Le chapitre 11, c'est l'identité du disciple comme un homme ou une femme de prière. Alors là aussi, au chapitre 11, il y aurait une heure de prédication, mais Jésus nous donne le Notre Père. Le Notre Père, ce n'est pas une prière à réciter, mais c'est un canevas de prière. Et il nous donne l'exemple de la persévérance et de la promesse. J'aimerais partager une anecdote avec vous qui a été vécue. Hein. Ça se passe en Birmanie et le temple bouddhiste Shwedagon à Rangoon en Birmanie avait une très belle cloche. Mais malheureusement, à cause de la guerre, cette cloche a été emmenée et elle a coulé dans la rivière. Et il y a plein d'ingénieurs qui sont venus, qui ont essayé de l'extraire du fond de la rivière. Ils n'y sont pas arrivés. C'était trop lourd. Et là arrive un prêtre. Et il demande aux autorités de la ville la permission de sortir la cloche. Il leur dit, moi je veux bien vous sortir la cloche, mais à condition que vous me la donniez. Alors les gens disent, perdu pour perdu, on te la donne. Et vous savez ce qu'il a fait? Ils sont allés à très grand nombre, ils ont attaché des bambous. Un bambou, 10 cannes de bambou, 100 cannes de bambou, 500 cannes de bambou, 1000 cannes de bambou. Et à un moment donné, il y a une canne, la dernière canne, qui était la bonne, a fait surnager la cloche. Vous savez, le bambou, c'est creux. Hein, s'en sert pour faire des échafaudages. Eh bien, plusieurs, je ne sais pas combien il y en avait, il y en avait plus d'un millier. Eh bien, à un moment donné, ils ont attaché un dernier bambou et la cloche a surnagé. Et Abbé Simpson, qui rapporte ce témoignage, voilà ce qu'il dit. Il dit, chaque murmure de prière qu'on fait monter au Seigneur, eh bien c'est comme l'un de ces bambous. On en fait monter un, on en fait monter 10, on en fait monter 100, il ne se passe rien. Et un jour, après qu'on en ait fait plus d'un millier, je ne sais pas, arrive là la dernière supplication, le dernier soupir inexprimable, comme nous dit Romains 8, qui fait tout basculer. Et donc, le disciple est un homme et une femme de prière, persévérant, qui sait qu'il y a des promesses attachées à la prière. C'est un peu comme les murailles de Jéricho, c'est un peu comme les bras de Moïse soutenus par Aaron et Hur. À un moment donné, c'est dur la bataille, et puis la dernière prière arrive et Amalek est détruit, les murailles tombent, la cloche surnage, et Dieu répond aux prières. Et on a tous ici des témoignages de réponse aux prières quand la prière est persévérante, quand la prière est faite dans la foi. Voilà, donc on a terminé ce long passage, 66 versets. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, si je veux résumer tout ça? Si je veux faire une application de tout ça. Donc on a vu la première partie, c'est l'identité du Messie, et c'était un Messie souffrant. À la question « Qui est mon vrai disciple ?», Jésus répond « C'est celui qui croit, c'est celui qui comprend ma vraie mission, c'est celui qui sait renoncer à lui-même, et c'est celui qui comprend ce que c'est qu'un faux disciple ou un pseudo-disciple. » À la question « Comment réaliser ma mission ?», la réponse est « Comme un ambassadeur en terre étrangère. » À la question « Comment gérer le rejet qui arrivera aux disciples qui témoignent ?» Eh bien, c'est en comprenant la signification du rejet, en comprenant qu'on est rejeté parce que notre royaume n'est pas de ce monde, et en modélisant Jésus qui allait ailleurs et qui secouait la poussière de ses pieds. Comment se comporter face aux besoins de mon prochain ? La réponse, c'est être rempli de compassion, exercer la miséricorde, faire parfois le mille ou le kilomètre de plus, parce que ce bon samaritain, non seulement il prend soin de la personne au bord de la route, mais il va même jusqu'à payer le supplément. Il fait le kilomètre de plus qui distingue le chrétien des autres, le disciple des autres, pardon. Comment bien utiliser son temps ? Eh bien, c'est prendre garde à l'activisme, l'activisme évangélique, comprendre les vraies priorités et comprendre que le disciple, c'est celui qui choisit la bonne part. Et comment bien prier ? Eh bien, celui qui prie bien, c'est celui qui comprend le canevas du Notre Père, c'est d'abord le Père, c'est pas « Seigneur, t'es un groom à ma disposition, je sonne la cloche pour que tu répondes à mes besoins ». C'est quelqu'un qui comprend d'abord Notre Père, on glorifie Dieu avant de lui demander. C'est quelqu'un qui prie avec persévérance et qui est conscient des promesses qui sont attachées à la prière. Donc, pour devenir un disciple de Jésus, il faut une véritable transformation de l'être humain. Alors c'est la régénération par la nouvelle naissance, et puis après c'est la progression. Le disciple est quelqu'un qui progresse toute sa vie, qui se forme, qui pleure auprès du Seigneur, qui pleure sur ses péchés, qui est conscient de qui il est, qui est conscient de ce qu'il est en tant que pécheur, et qu'il a besoin de la progression en sainteté par l'action du Saint-Esprit. Et c'est en cela que le texte nous aide à comprendre, le texte d'aujourd'hui nous aide à comprendre la véritable identité du Messie pour pouvoir imiter finalement, calquer notre identité sur la sienne, comprendre que la mission c'est une mission de souffrance où il faut renoncer à soi-même, il faut se garder de l'idéalisme, du conditionnalisme, du sentimentalisme, il faut se comporter en ambassadeur, gérer le rejet, exercer la miséricorde, comprendre les vraies priorités. Vous avez dit infaisable ? Vous avez raison, c'est infaisable. Qui est suffisant pour ces choses ? Disait Paul. Il répond, mais notre capacité vient de Dieu. À lui soit toute la gloire. Amen.